Oui, BFM Bourse, c'est le plus beau rooftop de France. D'ici, on a vu sur les marchés en Europe, mais aussi à l'ouest, sur les États-Unis. On va passer 10 minutes le regard posé sur New York, où les indices sont en train d'ouvrir. John Plassard, depuis les bureaux de Mirabeau. Bonjour, John. Ravi de vous retrouver. Étienne Braque, depuis la Tour Euronext. Bonjour, Étienne. Comment Wall Street se réveille-t-il ?
Bonjour à tous. Après une petite hausse hier soir à la clôture, vous avez Wall Street qui ouvre en ordre dispersé avec un indice Dow Jones qui perd 0,16% quand le Nasdaq est stable, malgré le fait que vous avez Micron qui perd 5%, Nvidia qui perd un peu plus d'1%, mais figurez-vous que Amazon qui a pris plus de 4% hier reprend du terrain, toujours au-delà des 2000 milliards de dollars, avec des informations de The Information qui évoquent que le site pourrait lancer un site low cost pour concurrencer AliExpress ou encore Temu. Le S&P 500 est parfaitement stable, toujours à la porte de ses records, à 5477 points. À noter que l'obligataire se stabilise aux États-Unis, 4,3% pour le 10 ans américain, quand le 2 ans de son côté perd 2 points de base à 4,72. Et puis sur le front des devises, l'euro-dollar retrouve la barre des 1,07 à 1,0724. Du côté des sociétés à souligner, Walgreens, vous savez, c'est une chaîne de pharmacie qui perd 15% aujourd'hui à l'ouverture, après un gros warning, consommateur américain qui manque à l'appel, le groupe revoit à la baisse ses perspectives, consommateur qui manque également à l'appel du côté de Levi's Strauss qui perd un peu plus de 10%, H&M, vous en avez parlé, perd également plus de 10%, donc visiblement les premiers résultats sont pas très bons du côté de Wall Street. Enfin, un dernier mot, notamment sur le pétrole qui repart à la hausse comme depuis le début de la semaine, au-delà des 82$ pour le WTI quand le Brent de son côté s'échange à 85$, et donc Wall Street, qui ouvre sur une hausse timide avec un indice Nasdaq qui gagne 0,1%, le Dow Jones est stable, idem pour l'indice S&P 500.
Et on parlera aussi dans un instant, bien sûr, de ce dont les Américains parlent le plus aujourd'hui, ce grand débat, premier débat télévisé entre Joe Biden et Donald Trump. Auparavant, alors John, effectivement, l'ouverture à Wall Street et les indicateurs intéressants, la croissance américaine du troisième trimestre vient d'être révisée.
Oui, du premier trimestre, Guillaume, effectivement, oui. C'est la dernière révision. Pourquoi ? Parce qu'on rentre évidemment dans le troisième trimestre. La semaine prochaine, tenez-vous bien, on était lors de la dernière révision, la deuxième à 1,3, on remonte à 1,4%. Donc, c'est pas grand-chose, mais ça continue d'indiquer que la croissance américaine est la plus faible depuis la contraction du premier trimestre 2022. Ce qui est intéressant de noter, puis on va en parler après, eh bien, on voit que la consommation personnelle passe de 2% à 1,5%. Donc, c'est en train de décélérer au niveau de la consommation américaine. Et si on regarde, on avait aussi d'autres statistiques aujourd'hui, les commandes de biens durables hors aviation et défense, eh bien, passent de plus 0,3 à moins 0,6%. Donc, ça nous montre une certaine décélération de la croissance. Et puis, juste un mot, Guillaume, parce que c'est toujours assez intéressant de regarder les demandes d'allocation au chômage. Eh bien, elles ont baissé de 6 000 pour atteindre 230 000, donc on n'est pas très loin des plus hauts niveaux de 10 mois qui étaient de 243 000. Par contre, on a aussi entendu que les demandes récurrentes ont augmenté pour atteindre 1,84 million aux États-Unis. Ça ne vous dit pas grand-chose, mais c'est le niveau le plus élevé depuis la fin de l'année 2021, les demandes récurrentes d'emploi. Donc on voit ici qu'on a une dégradation de l'économie et de l'autre côté, eh bien une dégradation de l'emploi aux États-Unis.
Effectivement, alors on est toujours sur un soft landing, mais quand même, la direction s'affirme de plus en plus. Et c'est dans ce contexte, Étienne, qu'on a eu des informations sur la solidité du secteur bancaire américain.
Les fameuses stress tests qui ont été publiés aux États-Unis, John Plassard, typiquement, ça fait bouger certaines valeurs. Goldman Sachs, c'est l'une des plus fortes baisses du Dow Jones, moins 1,7%.
Oui, c'est très important. Il faut se rappeler que les stress tests, c'est publié une fois par année par la Réserve fédérale américaine. Et puis, c'est des tests qui sont utilisés pour calculer le montant minimum de capital qui sert à absorber les pertes lorsque on a un problème. Et ce problème, c'est quoi ? Pour passer à travers ces tests, la Réserve fédérale américaine calcule un niveau de chômage de 10% en cours d'une grave récession, une baisse de 40% des prix de l'immobilier commercial et puis une chute de 36% des prix de l'immobilier résidentiel. Donc on voit ici que pour passer à travers ces stress tests, il faut avoir assez de capitaux. On avait 31 banques qui étaient sur le grill. Tenez-vous bien, Étienne, les 31 ont passé le test. Mais, selon les calculs de la Fed, si on était dans le scénario catastrophe, eh bien, vous auriez des banques comme JP Morgan, Goldman Sachs et Bank of America qui subiraient des pertes de 685 milliards de dollars tout en restant dans ces stress tests. Et puis, juste pour rebondir sur le fait que Goldman Sachs baisse aujourd'hui, eh bien, on voit que certainement, c'est les premières conclusions qu'on a des analystes, eh bien, Goldman Sachs et Bank of America devraient voir leur exigence en matière de fonds propres, augmenter, donc potentiellement, eh bien, il y aurait un risque sur le dividende et aussi sur les rachats d'actions. C'est pour ça que certains de ces titres sont en baisse aujourd'hui.
Ce qui n'empêche pas les indices de progresser. Le S&P gagne 0,1%. Le Nasdaq aux États-Unis gagne 0,3%. Nasdaq sur lequel il faut suivre notamment le géant des puces Micron. On va parler de ses résultats, de la réaction du marché dans un instant. Mais d'abord, on est à 131 jours de la présidentielle. Ah oui, parce qu'on parle beaucoup de politique ici en France, vous le savez John, on a nos législatives, ici on est à J-3. Mais aux États-Unis, 131 jours nous séparent de la présidentielle. Ce soir, gros coup d'accélérateur avec ce premier débat télévisé entre Joe Biden et Donald Trump. Que faudra-t-il surveiller ?
Alors, on l'avait dit, ce soir, c'est les pop-corn qui seront à l'honneur et la bière sans alcool aux États-Unis. Mais évidemment, il ne faut pas s'attendre ce soir à avoir de plus grandes précisions concernant les programmes économiques de Biden et Trump. Alors, selon ce que disent les journaux ce matin, les deux hommes vont surtout se focaliser sur certains sujets, dont la sécurité des frontières, et notamment la frontière avec le Mexique, l'immigration, bien évidemment, le droit à l'avortement. Vous savez que c'est un sujet dont on parle énormément aux États-Unis. Évidemment, la condamnation de Donald Trump à New York, mais aussi, bien évidemment, si on rentre sur ce sujet, la condamnation, il n'y a pas très longtemps de ça, de Hunter Biden, le fils de Joe Biden, qui avait été condamné pour l'achat et possession d'armes à feu. Et évidemment, ce que regardent et ce que regarderont tous les téléspectateurs américains, c'est bien évidemment de voir comment ces deux hommes proches de 80 ans, voire plus de 80 ans pour Joe Biden, vont se comporter s'ils ne vont pas bafouiller. C'est ce qu'on appelle le body language qu'il va falloir suivre. Et on en avait parlé en début de semaine, selon les prévisions, et c'est difficile à dire évidemment, avant que le débat ait lieu, eh bien, c'est normalement dans le premier débat, celui qui rentre dans la course, c'est-à-dire Donald Trump, qui pourrait gagner des points.
Effectivement. Alors Joe Biden, il y a des interrogations sur son âge, effectivement. Donald Trump, qui est très âgé lui aussi, il y a des interrogations sur certaines incohérences, en l'occurrence, puisque lui aussi a des petits moments de confusion. En effet, Donald Trump, on l'a vu dans ce début de campagne, ce soir, débat télévisé, ce sera 2h30 heure française, et d'ailleurs à suivre aussi sur BFM TV en direct et traduit en français, ce débat télévisé aux États-Unis entre Joe Biden et Donald Trump. Du côté des valeurs à Wall Street, il y en a une qu'il faut surtout pas rater aujourd'hui, Étienne, le titre Micron.
Micron, qui est l'une des fusées de l'intelligence artificielle à Wall Street, John Plassard, le titre a plus que doublé en l'espace d'un an, plus 50% depuis le début de l'année. Bon, aujourd'hui, ça cale un petit peu, moins 5%, après des perspectives qui laissent Wall Street un petit peu sur le doute.
Exactement. Mais si vous regardez, Étienne, les résultats qui ont été publiés, qui sont en l'occurrence sur deux trimestres décalés pour le troisième trimestre, eh bien, ils sortent largement au-dessus des prévisions grâce à la demande dans les puces liées à l'intelligence artificielle, bien évidemment. Mais Micron a annoncé un chiffre d'affaires pour le trimestre en cours entre 7,4 et 7,6 milliards de dollars, alors que le consensus était logé à 8. Donc c'est largement en dessous. Et tenez-vous bien, c'est pas du tout à cause de l'intelligence artificielle, c'est parce que, eh bien, Micron est toujours avec la vieille technologie, si on peut dire comme ça. C'est les marchés traditionnels tels que les ordinateurs personnels et les smartphones, qui sont des secteurs qui ont une moindre croissance que tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle.
Alors pour ceux qui nous suivent à la radio, c'est avec BFM Business, BFM Bourse, c'est aussi à la télévision. On ne le voit pas, mais on sait que vous portez un jean aujourd'hui, John. Oh, on sait tout de vous. On vous voit, on voit vos vidéos, celles que vous postez le matin. On sait que vous portez un jean, et ça tombe bien. Il faut suivre aujourd'hui le titre Levi's à Wall Street. Ce titre Levi's est en baisse de 17% malgré des résultats supérieurs aux attentes. Comment expliquez-vous ce plongeon de Levi's en bourse ?
Ben écoutez, je ne porte pas le jeans maintenant, mais plus tard, oui. Alors oui, ça c'est clair, mais c'est intéressant de noter qu'on a un bénéfice qui est supérieur aux attentes, et de l'autre côté, on a des revenus qui ratent le consensus. Et Pourtant, on a aussi Levi-Strauss qui nous annonce une hausse, une augmentation de 8% de son dividende. Mais les analystes craignent, tout comme pour Walgreens, tout comme pour General Mills et d'autres entreprises, que le consommateur américain, eh bien, achète moins de jeans parce que le cycle de remplacement, et oui, Guillaume, il y a un cycle de remplacement aussi pour les jeans, eh bien, s'allonge. Donc les gens, à cause d'une croissance qui décélère, achètent moins de jeans. Et ce qui est aussi assez intéressant de noter, c'est que les ventes par Internet de Levi-Strauss sont en hausse de 19% en glissement annuel. Donc c'est une bonne chose, mais les magasins de briques et de mortier, eh bien, manquent de clients.
Effectivement, et Levi's perd donc 17%. Alors, vous n'êtes pas en jean, mais vous ne le savez peut-être pas, John, mais Étienne est en Bermuda hein, depuis la Tour Euronext. Il fait chaud, c'est vrai. Et oui, il y a du soleil sur Paris, je ne sais pas quel temps il fait à Genève. Et Étienne, une autre valeur très intéressante à suivre pour mesurer le comportement des consommateurs, vous l'avez repéré, ce titre, c'est Walgreens.
Walgreens, qui est un couteau qui continue de tomber. Figurez-vous que le titre a perdu 70% de sa valeur en l'espace de 2 ans. C'est une chaîne de pharmacie, John Plassard, qui perd encore 20% aujourd'hui, avec décidément des ventes qui continuent de plonger.
Oui, tout à fait. C'est assez dramatique ce qui se passe chez General Mills. En plus, ils ont annoncé qu'ils allaient fermer plusieurs magasins. Ils en ont 8600 aux États-Unis. Et tenez-vous bien, et vous le releviez avant, Étienne, eh bien, on a le PDG de Walgreens qui pensait, et c'est lui qui l'a dit sur CNBC, qu'il pensait qu'au second semestre, le consommateur serait plus fort, mais ce n'est pas le cas. Donc on voit qu'il y a une désertion d'une certaine manière des magasins et ça relève les messages qu'on a de General Mills, je le disais avant, mais aussi de McDonald's et de Burger King. Je vous rappelle, et on en avait discuté il y a quelques semaines, que les deux chaînes de fast-food, et je sais Guillaume que vous adorez le McDonald's, font des menus aux États-Unis de $5, tenez-vous bien, depuis le début du mois de juin.
Quel bonheur. Merci John. John Plassard avec nous depuis les bureaux de Mirabeau. Étienne Braque nous accompagne depuis la Tour Euronext.